Les interviews de Visionary Marketing pour tout savoir sur l'innovation, le marketing, les startups et bien plus encore. Alors je suis avec Hervé Bloch. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Aujourd'hui on va parler non pas de mailing mais on va parler d'événementiel. Alors c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans le marché de l'événementiel aujourd'hui, notamment autour des salons traditionnels?
Alors le constat, c'est que dans les salons traditionnels, les exposants parient pour avoir des décideurs qui viennent dans leur stand, pour qu'ils présentent leur offre, pour ensuite signer des projets. Dans les faits, les décideurs vont de moins en moins dans les salons. Ce sont plutôt les candidats qui viennent dans les salons, les chefs de projet, peut-être les cadres moyens. Donc ce sont des gens qui sont pour le mieux des prescripteurs. Et finalement, ce sont pas eux qui vraiment vont décider d'un sujet, d'un projet, d'une priorisation. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour l'exposant ensuite de remonter vers le décideur et donc d'amortir sa dépense et de générer un investissement et un retour sur investissement efficace. Donc je pense que les salons traditionnels, que ce soit dans le marketing ou autre, sont en train, je vais pas dire de mourir, mais sont en train de souffrir. La tendance, c'est plutôt de réunir cette fois les décideurs dans des congrès. On en voit à Cannes, à Biarritz, à Monaco. Donc ça, c'est déjà une première étape. Mm-hmm. Je trouve que c'est le sens de l'histoire. Ce que j'ai créé, moi, il y a un an, avec le format Big Boss, rajoute encore une logique, c'est une logique émotionnelle. Quand on passe trois jours très sympathiques, très festifs, très détendus, avec des décideurs, moi, je fais très attention à un ratio deux tiers décideurs et un tiers prestataires. Sinon, ça fait très vite foire commerciale, foire d'empoigne. Eh bien, quand on passe trois jours de manière très sympathique, on va créer de l'émotion pendant ces trois jours. On va favoriser des contacts humains, qui vont se convertir et se transformer en contacts professionnels, puis en contacts business. Et donc, j'estime que c'est finalement la troisième révolution. Hein. La première, c'était de réunir tout le monde dans un salon. La deuxième, c'était plutôt d'inviter les décideurs en congrès. Eh bien, moi, je suis dans l'étape d'après, qui est de créer de l'émotion, de profiter de l'événement pour créer de l'émotion, pas forcément pour tout de suite et directement être dans une vie business, et ensuite favoriser le business qui aura lieu après l'événement.
Alors, dans ces événements, en fait, on fait de tout, du ski, du baby-foot, on ne parle pas de business, enfin, il n'y a pas de présentation formelle, quoi.
Alors, il y a deux présentations, il y a deux temps forts business. Sur un événement qui dure trois jours, il y a deux temps forts qui durent deux heures chacun. Le premier, c'est un speed dating où les big boss qui ont coché des sujets vont rencontrer une dizaine de minutes les prestataires qui matchent avec leurs besoins. Et le deuxième, c'est un pitch où tous les prestataires se présentent deux minutes, souvent de manière décalée avec des vidéos, pour présenter leur offre à l'assistance qui ont des télécommandes pour voter en live, est-ce que ce sujet m'intéresse, pourquoi pas, ou au contraire ce sujet ne m'intéresse pas. Donc ça permet finalement à l'ensemble des big boss de voir l'ensemble des sponsors, et aux sponsors essayer de marquer des points auprès de 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 big boss réunis. Donc ces deux temps forts business sont très structurés. Et le reste du week-end est bien sûr organisé, mais il est plutôt structuré d'un point de vue business. On ne va pas skier avec des gens qui ont le même intérêt business. On va skier avec des gens qui ont le même niveau de ski. On ne va pas faire du beach volley avec des gens qui forcément font de l'acquisition online ou de la fidélisation online. On va plutôt créer des groupes sympathiques au gré du moment. Et donc, c'est dans ces rencontres où on va travailler la sérendipité, cette fameuse sérendipité où le hasard va finalement bien faire les choses et va créer des rencontres très atypiques, très sympathiques, qui vont, pour certaines, se convertir en business.
Alors cette sérendipité, elle fournit aussi des résultats concrets. Hein. Tu peux parler même véritablement de ROI ou de ROE. Toi, tu parles de ROE, alors tu nous expliques ça.
Tout à fait. Donc, en fait, alors le nerf de la guerre, hein, les sponsors financent ces événements, donc il faut qu'ils aient un retour sur investissement. L'année dernière, sur la première édition du ski, en décembre dernier, il y avait 25 sponsors et j'ai pu mesurer avec eux tout au long de l'année, je les ai d'ailleurs aidés sur certains sujets, à générer 5 millions de volumes d'affaires. Donc, ils étaient 25 sponsors, ce qui fait une moyenne de 200 000 euros par sponsor. Alors il y a un gros écart type, hein, ils ne sont pas tous autour de 200 000 euros. Le prestataire qui a le moins généré de business, il a généré 9 000 euros. Bon, hors sujet, je dirais. Et le meilleur, il a signé 1 123 000 euros, avec Target, racheté par Salesforce depuis. Et donc, 1 123 000 euros pour un événement de 3 jours où on mobilise 2 personnes en plus dans un week-end, bah, c'est très, très héroïste. Et il y a encore quelques dossiers qui restent à signer suite à cet événement. Donc, il y a vraiment un ROI. Et moi, je parle de ROE. Parce que l'enjeu, c'est pas de passer 3 jours avec des plaquettes, des cartes de visite et d'essayer de faire un maximum de contacts business. Au contraire, c'est se faire plaisir, c'est prendre du bon temps, c'est être détendu, c'est vraiment être dans un network très sympathique, très chaleureux. Et après, le business se fera. Le business se fera parce que, de toute façon, les temps forts business font que les gens qui ont les sujets vont rencontrer les prestataires qui savent y répondre. Et donc, voilà, les rencontres vont se faire de manière très intelligente et très structurée dans les temps forts business. Et puis, au contraire, au gré des animations, que ce soit le bobsleigh, que ce soit le ski, que ce soit le beach volley, que ce soit, bref, toute l'animation qui peut permettre au network de se faire et aux rencontres d'être les plus prolifiques possibles.
Alors, donc, on voit les résultats qui sont obtenus avec ce genre de nouvelles méthodes. Comment tu vois l'avenir de l'événementiel dans les quelques années qui viennent?
Bah, l'événementiel, déjà, il doit plus être statique et être dans une logique annuelle. Pour le format Big Boss, j'ai décidé de faire 2 formats. Donc le format hiver, Big Boss fond du ski, le format été, Big Boss Summer Edition, donc décembre et juin. Et entre deux formats, je fais une soirée dans Paris. Donc, je vais en faire une en mars à l'Olympia. Et j'ai fait en octobre dernier une soirée Place Vendôme. Donc, en fait, la communauté des Big Boss, je la réunis tous les 3 mois. Et ça, c'est important. L'événementiel, ce n'est pas juste un gros salon ou un gros congrès dans l'année. C'est aussi animer cette communauté tout au long de l'année. J'ai un groupe sur Facebook qui est aussi très, très sympathique. Je vais donner un exemple. Donc, on avait fait des bonnets au ski l'année dernière et j'ai proposé au Big Boss de prendre le bonnet quand ils allaient bouger un peu à l'autre bout du monde et se faire photographier avec le bonnet pour le publier sur le groupe Facebook. Et alors le bonnet a fait le tour du monde. On a vu le bonnet au Brésil, on a vu le bonnet au pôle Nord, on a vu le bonnet au Crédit-Orse, on a vu le bonnet à Saint-Tropez. Donc il y a eu une trentaine de big boss qui se sont prêtés à l'exercice et qui ont pris leur bonnet dans leur valise pour se prendre en photo, un peu comme les nains de jardin d'Amélie Poulain. Et donc ça aussi, on crée de l'émotion, on crée des moments sympathiques et puis on garde à l'esprit cette communauté qui donc tous les 3 mois fournit un événement et finalement peut-être tous les jours ou tous les 2 jours crée une actu dans le cadre de son groupe Facebook fermé. La dernière actu, c'est Marc Ménazé, Big Boss de la première heure, qui vient de lever 23 millions d'euros. On a eu Frédéric Mazzella, qui a levé 100 millions d'euros. Voilà, donc on a bien sûr toutes les actus des Big Boss se retrouvent, ceux qui sont interviewés. On a Valérie Dacier, qui a été élue personnalité e-commerce de l'année, qui est membre du jury de la prochaine édition Big Boss. Donc voilà, donc ces Big Boss qui représentent les 300, 400 gros décideurs de l'e-commerce, de l'e-retail, de l'e-tourisme français, bah, ils font parler d'eux, ils font parler de leur société. Et donc, on couvre tout ça pour que la communauté reste à jour et reste bien à l'esprit.
D'accord. Et comment on peut devenir Big Boss? Est-ce qu'il y a un tri sur le à
Ouais,
l'entrée
alors c'est très
dans le
très
club?
structuré, hein. Pour être Big Boss, il faut être dans une société qui fait au moins 10 millions d'euros de chiffre d'affaires online, donc soit un pure player, soit un acteur multicanal qui a déjà franchi les 10 millions d'euros online, mobile ou web. Et ensuite, il faut avoir un titre de directeur. Donc, pas de chef de projet, pas de responsable. Il faut être directeur général, directeur marketing, directeur e-commerce, directeur internet. Bref, être dans une logique d'un comité de direction, de piloter des équipes, de piloter des budgets. Bref, de pouvoir signer ensuite avec les sponsors. Donc, d'avoir vraiment une logique de decision maker. Donc, en gros, boîte qui fait au moins 10 millions d'euros de chiffre d'affaires online et titre de directeur. Et en gros, la FEVAD, d'ailleurs, déclarait qu'il y a 500 sites en France, donc multicanal ou pure player, qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce sont ces 500-là qui nous intéresse, donc à la fois bien sûr les showrooms privés, les Groupon, les ventes privées, etc., mais aussi les Air France. Les gens ne le savent pas, mais Air France fait 2 milliards de volume d'affaires en ligne. Donc c'est un pure player de 2 milliards d'euros, même s'ils font aussi bien plus de milliards sur les réseaux traditionnels encore. Mais l'e-commerce, c'est très très stratégique pour eux. Accor aussi fait beaucoup de milliards online, Club Med. Donc voilà, les acteurs traditionnels, ils n'ont plus le choix. C'est plus e-commerce contre acteurs traditionnels, c'est pure player contre e-commerce chez les acteurs traditionnels. Et donc j'ai à peu près moitié des big boss qui sont des pure players et moitié des big boss qui sont des acteurs traditionnels qui sont devenus e-commerçants par la force des choses.
Les interviews de Visionary Marketing. Pour tout savoir sur l'innovation, le marketing, les startups et bien plus encore.